This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition très spéciale. Et oui, cet épisode est une première en France, puisque vous allez pouvoir écouter, si vous le souhaitez, le replay d'une émission diffusée sur Clubhouse. Je ne sais pas si vous connaissez Clubhouse, mais Clubhouse est un tout nouveau réseau social qui est apparu en France il y a quelques mois. C'est un réseau social vocal. Et chaque semaine, le vendredi à 18h, je fais une émission Happy Work, où il y a des gens qui viennent débattre, échanger avec moi. Il y a une équipe de coachs qui m'accompagne pour pouvoir vous conseiller. Et donc, l'idée, c'est vraiment, pendant une heure, de parler d'un sujet très particulier et les gens viennent poser des questions, ajouter des avis, donner des opinions, des tips. Il y a toute une équipe de spécialistes qui viennent conseiller. Et donc, si jamais cette première d'un replay de ces rooms de Clubhouse vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Si jamais vous trouvez ça inutile dans l'offre Happy Work, n'hésitez pas non plus à me le dire. Si jamais le replay vous plaît, n'hésitez pas à me demander une invitation pour être sur Clubhouse. Ça sera avec grand plaisir. J'espère que vous aimerez ce replay. J'attends énormément de vos commentaires pour dire utile, pas utile. Le thème de cette semaine de la room, c'est le même thème que l'épisode de Happy Work d'hier qui est la prise de parole. Donc nous allons pendant une heure échanger avec des spécialistes autour de la prise de parole, comment l'optimiser à l'écrit comme à l'oral. Bonne écoute et encore une fois, j'insiste, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci, bonne écoute. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Donc on va parler de prendre la parole. Et c'est clair que sur Clubhouse, c'est un vrai sujet, mais je pense qu'il faudra élargir la notion de prise de parole à la prise de parole orale, mais également écrite. Parce que finalement, quand j'ai préparé cette room, j'ai réalisé qu'il y avait plein de points communs sur la prise de parole, qu'elle soit en vocal ou à l'écrit. Et en fait, vous inquiétez pas, ça va vraiment durer 3 minutes, c'est pas un exposé, c'est pas un tunnel de fou furieux de 4 heures. En fait, j'ai déterminé qu'il y avait 6 secrets, à mon avis, pour une bonne prise de parole. La première, faire des phrases courtes. Je sais pas si vous le savez, mais vous allez retenir, quel que soit votre niveau d'attention, 50% de ce que quelqu'un dit. Et plus la phrase est longue, moins on va se souvenir. Et parfois, on a l'impression qu'il y a des gens qui parlent, quand ils finissent leur phrase, ils ne se rappellent pas du début de la phrase. Et ce qui fait que la personne qui écoute, forcément, ça va être de même. Donc, les phrases courtes, c'est sujet, verbe, complément. Point. Rien d'autre. La deuxième chose, des mots simples. Si vous traînez un peu sur Clubhouse, vous constaterez qu'il y a des gens qui, ce que j'appelle, s'écoutent parler et vont utiliser des mots où parfois, je me dis, mais sérieusement, ça existe ce mot et je suis obligé d'aller chercher dans un dictionnaire. Et en fait, c'est pour paraître intelligent. Alors la question, c'est pas est-ce que ça fait intelligent ou pas, c'est est-ce que c'est compris ou pas. Et j'ai comparé la prise de parole à deux ordinateurs qui communiquent l'un avec l'autre. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand un ordinateur très rapide communique avec un ordinateur très lent, c'est l'ordinateur le plus rapide qui va s'adapter, qui va baisser sa vitesse pour parler avec l'ordinateur le plus lent. Entre êtres humains, c'est pareil. Et quand vous faites une prise de parole, essayez de vous poser la question suivante. Est-ce qu'un enfant de 12 ans comprendrait ce que je suis en train de dire? Si la réponse est non, changez vos mots. La troisième chose, c'est la sincérité. C'est effrayant quand on entend certaines personnes parler, on se dit « mais arrête de jouer un rôle ». Je pense qu'être soi, c'est fondamental. Ensuite, il y a le point de la confiance. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Et je compare la prise de parole au jazz. Il se trouve que j'étais musicien et que j'ai été formé au jazz. Et que dans le jazz, quand tu fais une fausse note, tu t'arrêtes pas de jouer. T'as pas le rouge qui monte aux joues et t'es pas honteux et tu t'excuses pas. Quand tu fais une fausse note en jazz, tu rebondis dessus. Et dans la prise de parole, c'est exactement la même chose. Quand on dit une bêtise ou qu'on bafouille, la meilleure des solutions, c'est de dire « Oh, oups, désolé, je me suis trompé », de se moquer de soi et de repartir sur autre chose. C'est pas grave de se tromper quand on parle. L'avant-dernier secret, c'est souligner les messages importants. Et ça, c'est Steve Jobs qui a vraiment mis en exergue cette technique de façon extraordinaire. Alors, souligner, quand on parle, c'est, je vais vous donner le chiffre de 50% de ce qui est dit n'est pas retenu. Eh bien, mettre l'emphase, c'est, si je vais vous sortir cette phrase, saviez-vous que 50% de ce que vous dites ne sera pas retenu ? 50%. Et c'est Steve Jobs qui a créé ça, et le fait de répéter, répéter égale mémorisation. C'est un truc de radio. Donc n'hésitez pas à définir vos messages importants et à les répéter. Et enfin, ne jamais oublier de conclure en résumant ce que vous avez dit. Et c'est comme ça que les gens vont se souvenir. Donc un, des phrases courtes, deux, des mots simples, de la sincérité, de la confiance, souligner le message important et conclure. Et c'est ce que je viens de faire. Alors, je vais donner la parole en premier à la coach en chef de la room, donc à Léna. Et d'ailleurs, je vais vous mettre en modo, je ne vous ai pas encore mis modo. Qu'est-ce que tu en penses, Léna ? Est-ce que tu as des commentaires, des choses à rajouter, des choses que j'aurais oubliées ?
Non, moi je confirme, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, notamment la vulgarisation. Je pense que c'est un point clé. Et tu as dit un enfant de 12 ans, alors moi je dis toujours un enfant de 5 ans, parce qu'on a souvent tendance à utiliser des termes techniques, du jargon qu'on comprend et qu'on pense compréhensible des autres, alors que ce n'est pas le cas. Et vulgariser le message, donc le simplifier au maximum, c'est très important. L'authenticité aussi, tu en as parlé, ça me paraît être un point vraiment clé. Et si je peux me permettre de rajouter peut-être un ou deux points.
Mais avec plaisir.
Voilà, je dirais dans la prise de parole, ça peut être très, très important quand on peut le faire, de s'adapter au code culturel de ceux qui nous écoutent, et donc de s'adapter à ce contexte-là pour être encore mieux compris. Et le deuxième point, ce serait la rétroaction, ce qu'on appelle le feedback. Quand c'est possible, bien entendu, parce que ce n'est pas toujours possible, surtout dans une communication de masse ou de groupe, en fait, le feedback permet de confirmer la bonne réception du message. Ça peut être intéressant d'avoir ce feedback-là pour savoir s'il faut reformuler d'une autre façon.
C'est vrai que c'est super important et j'ai oublié ce point-là. Léna, ça y est, j'ai honte. Parce qu'en fait...
Je suis là, alors.
Mais j'allais dire, c'est pour ça qu'on te paye, mais en fait, personne n'est payé sur Clubhouse.
J'ai mis mon PayPal, hein, si vous voulez payer.
Ouais, normal. Mais en fait, c'est hyper important, et c'est vrai que j'en parle très souvent de ce sujet-là, de la communication entre deux êtres humains, c'est exactement comme quand Canal+ envoie un signal. Fut un temps, il y avait des décodeurs. Et si tu n'as pas le bon décodeur, bah, tu captes rien. Et c'est pour ça que c'est important de bien vérifier que la personne en face a le bon décodeur. Parce que sans ça... Bah, effectivement, tu vas dire blanc et la personne va comprendre gris. Et si tu vérifies pas, c'est là où les malentendus sont apparaissent. Alors, je reprécise, les amis, je fais un refresh, il y a beaucoup de monde qui est arrivé. Un, vous pouvez participer à la conversation, c'est une room qu'on appelle Popcorn. Donc, si vous voulez poser des questions, intervenir, vous êtes les bienvenus. Céline, Benoît, Emmanuel et Léna, vous intervenez quand vous voulez, parce que vous êtes modérateurs, donc si vous voulez participer. Et je reprécise encore une fois, que la room, pour une fois, et c'est un test, est enregistrée pour être diffusée en replay sur mon podcast Happy Work. Si jamais vous devez partir et vous dites « j'aimerais bien connaître la suite », dès dimanche matin, ça sera dispo. On accueille sur le stage Anna Lucia, donc vous pouvez tous lever la main si vous voulez pour dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, des problèmes pour parler, on est là pour répondre à vos questions. Anna Lucia ou Anna Lucia, je ne sais pas comment tu veux que l'on prononce, c'est à toi.
Merci, enchantée. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, il n'y a pas de souci, mais normalement les Français m'appellent Anna, c'est plus court, depuis que ce que j'ai entendu. Alors, moi je voulais juste préciser un truc, que je trouve que c'est assez important en tant que communication, en tant que débat et en tant que transmission dans ce cas, c'est la diplomatie. Oui, certes, il faut être attentif à ce qu'on dit, oui, certes, il faut être attentif à ce qu'on nous répond, mais il ne faut pas se prendre quoi que ce soit personnellement, non plus s'attaquer à un thème si jamais on n'est pas d'accord. Voilà, c'est tout, c'est la diplomatie.
Tu pourrais préciser, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord et de le dire de façon diplomatique.
Oui, voilà. Par exemple, si, je ne sais pas, dans un débat, dans une idée, moi je ne suis pas d'accord avec tous, je ne vais pas m'attaquer à un par un, ou je ne vais pas m'attaquer au thème en disant non mais il ne faut pas parler de ça et quoi que ce soit. Je ne vais pas laisser que l'équilibre émotionnel dans mon discours prenne force dans ce sens pour pas être, on va dire, maladroite.
Ouais, c'est clair. En fait, moi, c'est quelque chose que je dis très souvent dans la prise de parole. Si on peut dire tout à quelqu'un tant qu'on a mis la forme. Et la différence entre la forme et le fond est quand même assez essentielle. Et très honnêtement, parfois, on a des trucs dans la vie à dire qui ne sont pas évidents. Pour autant, on n'est pas obligé d'agresser les gens. Enfin, je pense que c'est ça dont tu parles. C'est un moment, même si tu es énervé de quelque chose, tu peux faire une colère froide et dire des choses qui peuvent être dures, mais de façon respectueuse, polie. C'est ça que tu voulais dire aussi, Anna, le côté toujours rester dans le correct, quoi.
Oui, voilà, rester, assez courtois envers tous, rester assez neutre, si on peut le mettre aussi comme ça, puisque que je sois d'accord ou que je ne sois pas d'accord, c'est plutôt l'idée, le message derrière qui vaut plus que moi.
Alors Céline, tu veux intervenir, je t'en prie.
Oui, je fais suite à ce que dit Anna Lucia, et donc parfois, dans ta prise de parole, il vaut mieux te taire. Tout simplement, quand tu n'es pas d'accord et tu sens que tu as des émotions qui sont trop, trop violentes et que tu ne peux pas contrôler, et ben, parfois, il vaut mieux se taire et ne rien dire plutôt que de dire sous le coup de l'émotion et de dire des choses que tu peux regretter et qui peuvent être blessantes.
Complètement voilà, vrai. Simplement. Et tu sais, Céline, je vais faire une citation. Il paraît que tu as l'air intelligent quand on donne des citations. Donc, je vais citer Mozart qui disait que la beauté de la musique, c'était aussi dans les silences. Et effectivement, et dans la prise de parole, parce que l'idée de cette room, c'est aussi la prise de parole par écrit, je suis persuadé que ça vous est toutes et tous arrivé de recevoir un mail qui vous énerve. Mais genre, vous recevez le mail et vous êtes furieux. Et là, vous commencez à taper comme un furieux. Et généralement, ce mail-là, faut pas l'envoyer. C'est bien de se défouler, mais par contre, il faut juste attendre, le relire quand on est calme et enlever les émotions de la communication. Et justement, adapter la forme, histoire que le message passe fortement. Il y a un proverbe arabe que j'aime bien aussi, c'est pas dans la tempête que tu lèves les voiles. Ce qui veut dire que quand t'es énervé, tant que t'es énervé, communique pas. Enfin, je pense que c'est ce que tu voulais dire, Céline, c'est juste prendre le temps de reprendre raison, en fait.
Oui, tout à fait. C'est la différence entre la réaction et la réponse émotionnelle. C'est que quand t'es sous le coup de la colère, tu peux dire des choses qui sont monstrueuses. Et parfois, il vaut mieux se dire « Ouais, je suis en colère ». Tu sais quoi, je laisse tomber et puis j'y reviendrai dans 2 jours. Et dans 2 jours, j'y verrai plus clair.
Ouais, exactement. Mais c'est vraiment important de maîtriser ces mots. Et c'est pour ça que je conseille très souvent dans les prises de parole, alors surtout les prises de parole en réunion, de vraiment préparer, surtout si vous n'êtes pas à l'aise dans la prise de parole, de préparer et d'avoir des bullet points qui vont vous permettre de suivre un fil et justement de ne pas se laisser déborder par ses émotions. Alors, on accueille Joanne sur le stage. Joanne, bonjour.
Bonjour à tous, vous allez bien?
Mieux, ça sera indécent. On est vendredi, il est 18h, c'est bientôt le week-end et on va écouter ton intervention. Donc, juste parfait.
Je veux dire que dans le maîtriser sa parole de parole, maîtriser sa prise de parole est quelque chose d'important, effectivement. C'est lorsque j'ai fait du close-up et mes premiers pas dans le spectacle, et ça a été très important. Donc aujourd'hui, quand parce que je suis magicien, je ne l'ai pas marqué dans mon profil, je n'ai pas trouvé d'intérêt, voilà. Mais globalement, c'est vrai qu'avoir une routine bien préparée avec un jeu de cartes et puis proposer tout ce tour de magie à un spectateur, c'est vrai que ça se prépare, on ne peut pas le faire comme ça. Voilà.
Mais je me trompe ou pour les magiciens, la parole est fondamentale pour détourner notre attention et pouvoir faire le tour de magie et tous nous avoir?
Alors c'est l'observation, je crois, qu'il est nécessaire de bien observer les gens et de ne pas se limiter qu'au tour en lui-même, mais à tout ce qui peut se passer dans notre environnement. C'est-à-dire que ça, c'est par la suite, une fois qu'on ne se limite pas, mais au tout départ, c'est de faire rêver le spectateur et de l'amener dans cette magie de l'ordre du paranormal quasiment. Hein. Donc, la prise à la fois de la communication est importante, mais aussi le détournement, le regard, la façon d'être aussi est importante également.
Alors, Léna, avant de te donner la parole, je fais un tout petit refresh de la room pour les gens qui sont arrivés. Donc là, on parle de maîtriser sa parole, qu'elle soit écrite ou orale, avec des petits tips. Donc si vous voulez partager des tips que vous avez, levez la main, vous montez, vous en parlez. Si vous avez des questions, on est plein à pouvoir essayer d'y répondre, en tout cas. Donc, vous pouvez monter sur le stage avec grand plaisir. Léna, je te donne la parole.
Je voulais rebondir sur ce que Joanne vient de dire, qui est très intéressant. Alors, dans son cadre, c'est la magie, mais ça peut être utilisé dans d'autres cadres, dans d'autres cadres de prise de parole. Préparer son auditoire peut être très intéressant, dans le sens où on peut gagner sa confiance en alignant son discours sur des valeurs que l'auditoire connaît. et donc essayer de se rendre sympathique en se référant à son expérience personnelle. Donc ça peut être important, de, si on peut le faire bien entendu, de se renseigner en amont sur le type d'auditoire devant lequel on va faire sa prise de parole pour pouvoir gagner quelques points ensuite en confiance et en impact.
Ok, super intéressant Léna, merci. Par contre là, on accueille Hervé Charles et tu sais, j'ai hésité à te faire monter de force et je suis très content que tu l'aies fait de façon volontaire. Donc, on t'écoute.
Bonsoir, merci, c'est très aimable. Simplement, je suis arrivé très vite comme ça. La prise de parole est importante, oui. Gérer ses émotions, oui. Mais il ne faut pas oublier que quand on parle, les mots ne représentent que 10% du message. Ça veut dire que quand on va préparer sa prise de parole, eh ben, il va falloir aussi jouer sur les intonations quand on est par exemple dans une room, quand on est sur un podcast, moduler sa voix, accentuer, monter dans la voix, ralentir, mettre des silences. Il n'y a pas que les mots qui sont importants dans la prise de parole. Et quand vous animez une réunion, il y a la gestuelle qui va accompagner. Voilà, c'était juste comme ça, rapidement, en passant.
Non, mais c'est super, bien, mais c'est fondamental. Alors là, il se trouve que sur Clubhouse, les gestes et le regard sont un peu moins fondamentaux, de facto, mais c'est vrai, quand on est en réunion, le geste, enfin, les signaux légers envoyés par le corps, le regard, et on le voit, enfin, je sais plus, peut-être que quelqu'un de cultivé pourra le dire, qui disait les yeux sont le miroir de l'âme. Il n'y a personne de cultivé sur le stage, c'est horrible.
J'ai oublié.
T'inquiète.
Bob, c'est Bob qui dit ça.
Non, c'est pas Bob, Benoît. Et je crois pas que ça... Mais bon, c'est un poète français, mais peu importe. Mais c'est vrai que dans un regard, tu vois beaucoup de choses. Tu as des gens qui peuvent te dire blanc et tu vois dans leurs yeux qu'ils pensent exactement le contraire. Et donc, la gestuelle est fondamentale. Mais le truc qui est un tout petit peu stressant, alors je ne sais pas comment vous le vivez, quand on doit faire, moi je me rappelle mes premières présentations PowerPoint quand j'étais chez TF1 en tant que jeune manager, j'étais terrifié parce que t'es observé. Et on sait qu'on observe tout. Et quand t'es en train de parler, tu vas dire, mince, est-ce que j'ai une tache sur la chemise? Est-ce que je suis bien coiffé? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui déconne? Donc on est obligé de penser à un certain nombre de choses et je pense que dans la prise de parole, il y a quelque chose, mine de rien, qui est important, c'est lâcher prise. Même si Hervé Charles t'a tellement raison, faudrait penser à tout. Mais pour se lancer, je pense qu'il faut essayer de se dégager de ça, sinon finalement ça va tellement nous paniquer qu'on va pas se lancer, non, tu crois pas ?
La question c'est, est-ce que c'est du lâcher prise ou c'est le rapport qu'on a avec soi, sa confiance en soi et son estime de soi ? C'est ouais. La question au départ, c'est-à-dire que si j'ai confiance en moi, ça va être plus facile, si j'ai une bonne valeur, j'ai une bonne estime de moi, ça va être un peu plus simple, et le regard de l'autre, dans ce cas-là, on peut s'en détacher.
T'as complètement raison. Et peut-être que...
Je suis d'accord avec Hervé, absolument.
Il y avait un philosophe, je crois, polonais, Gombrowicz, qui a influencé Kundera, là je sors ma science, qui disait « L'estime de soi se construit dans ce qu'on pense percevoir dans le regard des autres. » Et c'est exactement ça, c'est-à-dire on imagine des choses en face, et on se dit « Il pense ça de moi, j'ai une tache sur ma chemise, je ne suis pas bon dans mon élocution. » Mais il a surtout rajouté à la fin « Même si c'est l'âme d'un crétin. » C'est-à-dire qu'il y a
c'est
des
très
gens
chouette.
On va se donner une valeur, alors qu'en face de nous, on a peut-être le pire des crétins. Et c'est ça la difficulté. C'est travailler déjà son estime et sa confiance en soi et la valoriser.
Alors, avant de donner la parole à Léna qui voulait intervenir, ce que tu dis me fait penser à une pensée bouddhiste qui explique que tu peux être totalement zen quand trois images de toi sont parfaitement les mêmes. L'image que tu as de toi dans le miroir, quand tu te regardes, avec tes qualités, tes défauts. L'image que tu aimerais, de la personne que tu aimerais être, donc ton moi fantasmé. Et la troisième image, celle dont tu parlais, c'est l'image que les autres, que tu imagines que les autres ont de toi. Et t'es vraiment à l'aise et t'as vraiment de la confiance quand ces trois images sont en parallèle. Et il y a un exercice à faire qui est tout bête. Je t'en prie, Hervé Charles.
Ah non, j'allais dire simplement, n'oublions pas que l'humain, on a trois facteurs qui nous portent. C'est aimer, être aimé et être reconnu.
Oui, complètement.
À partir du moment où on a ces trois valeurs-là, waouh ! Alors après, on met des degrés, des échelles différentes en fonction de chacun et en fonction des moments et des actions, oui. Mais aimer, être aimé et reconnu.
Et j'engage les gens qui ont des doutes sur leur confiance à parler à des proches, ça peut commencer par leurs amis ou à des collègues très proches, pour dire, mais selon toi, quelles sont mes qualités et mes défauts ? Et c'est de commencer à faire ce travail pour mettre les trois images en cohérence. Et vous allez voir, on progresse vachement avec ça. Léna, tu voulais prendre la parole, je te la donne avec plaisir.
Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, Hervé Charles et toi, Gaëlle, qui est tout à fait vrai, et me permettre un petit conseil pour tous ceux qui veulent se lancer dans la prise de parole. Je pense que la meilleure base pour se sentir à l'aise et en confiance, ça ne fait pas tout, hein, bien entendu, mais la meilleure base, c'est d'avoir préparé et structuré son argumentaire. Une fois que cette partie-là, on est OK avec ça, on peut se libérer de cette charge mentale, si on peut dire ça. Une fois qu'on est au clair sur le message, qu'on sait de quelle façon on va le délivrer, même dans les grandes lignes, qu'on a bien structuré, en tout cas dans son esprit, la façon dont on va articuler les arguments, eh bien, je pense qu'après, on peut justement être plus détendu et se focus sur toute la partie confiance en soi, gestuelle, etc.
Je suis complètement d'accord. Alors, Léna, avant d'accueillir, parce qu'on a Bob le manager qui est là, mais là c'est Grégory Lefourne, l'acteur qu'on va accueillir, mais un tout petit peu après, parce que Emmanuel, tu as demandé la parole, je te la donne avec grand plaisir.
Oui, je voulais intervenir dans le recrutement. C'est en fait, moi, je dis toujours que je commence toujours ma séance de recrutement avec la personne. Le recrutement est un échange. Et en fait, ça fonctionne plutôt bien parce que la personne, effectivement, je la mets à la même hauteur que moi. C'est une personne humaine. Je mets pas de. On dit oui, il faut que le. Souvent, on dit souvent le recruteur doit être à un niveau plus élevé que la personne qui recrute. Ben, je ne suis pas d'accord avec ça. Et moi, ma façon de recruter, c'est comme ça, c'est d'engager le recrutement, c'est un échange. Et en fait, ça permet quoi? Ça permet la fluidité à la personne qui est en face de pouvoir s'exprimer. Et finalement, c'est un enjeu pour elle.
Mais est-ce que dans un recrutement, la prise de parole, toi, tu attends des gens d'avoir une prise de parole parfaite ou de pouvoir découvrir les gens à travers également leurs imperfections?
Plutôt les découvrir à travers leurs imperfections, en fait. Voilà, moi, j'attends pas d'une personne qui parle parfaitement, qui s'exprime très bien et tout ça. Enfin, voilà, pour moi, il n'y a pas que ça dans le recrutement. Enfin, je suis peut-être un peu un extraterrestre du recrutement, mais effectivement, ça fonctionne et je continuerai toujours sur cette lignée-là.
Non, mais je crois pas que tu sois un extraterrestre. Moi, à chaque fois, à l'époque où j'étais en entreprise, quand je passais des entretiens, parce que j'ai changé pas mal de fois de boulot, quand on me disait, mais Gaël, tu devrais mettre une cravate. Et je fais, mais pourquoi je vais mettre une cravate? Je déteste mettre des cravates. Donc, je vais pas me présenter devant un recruteur avec un personnage que je ne suis pas. Et la prise de parole, alors, bien entendu, il faut adapter son niveau de langage à l'interlocuteur. Et si vous parlez avec vos amis en disant, wesh gros, comment ça va? Clairement, faut pas arriver devant le recruteur en disant, wesh gros, ça biche ou pas.
Ah bah, c'est
C'est
vrai, c'est
évident. Ensuite, il y a les niveaux de langage, mais par contre, faut pas avoir peur. Bah, si on parle pas avec des mots hyper complexes, faut pas prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas. Et j'aimerais bien, parce que alors là, c'est pas Bob le manager. Je suis désolé, Benoît, c'est pas Bob le manager qu'on accueille, c'est Grégory Lefourne, l'acteur.
Hey!
Non, c'est pas. Non, justement, c'est Grégory Lefourne.
Bonsoir à tous.
Mais alors, comment ça se passe la prise de parole quand t'es acteur? J'imagine que c'est l'énorme, énorme travail. Ou c'est du naturel? Comment tu travailles, toi, ta prise de parole?
Alors, bah, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'un discours en public, si on parle d'une pièce de théâtre, en tout cas, ce qui est important déjà, c'est d'être un peu sûr de soi. Si on y va avec la voix un petit peu tremblante, bah, j'ai l'impression que les gens nous prennent un peu moins au sérieux. Déjà, je pense qu'il faut avoir la voix posée, prendre son temps, appuyer sur les mots, parfois qui sont plus importants que d'autres, mettre des pauses, ça aussi c'est important, et surtout apprendre un truc, c'est quelque chose que je faisais beaucoup auparavant et que je ne fais plus maintenant, enfin beaucoup moins en fait quand c'est important, c'est prendre son temps. Parce que quand on prend son temps, pour parler, eh bien en fait les gens ont vraiment le temps d'assimiler ce qu'on vient de dire.
Tu veux dire que quand on
Les
parle
mots
comme ça,
vont.
c'est pas vraiment clair si je te parle comme ça et que j'attends une réponse et que j'essaie de te demander quelque chose, c'est ça?
Alors là, bien évidemment, c'est exagéré. Merci Gaël.
Je t'en prie.
Non, non, mais ça paraît bête. En fait, parfois, c'est des conseils qui paraissent hyper simples, en fait, mais on n'en a pas forcément conscience, pardon. Et en fait, c'est vrai qu'au départ, de parler vite, souvent, on est comme ça. On aime bien parler assez rapidement parce qu'on a l'habitude de parler avec ses amis. Et quand on parle avec ses amis, on parle un peu avec des amis comme ça parfois. Et le fait de parler avec du monde, et ça, on voit très bien dans les gens qui ont l'habitude de prendre la parole en public, généralement, ils savent appuyer certains mots, ils savent mettre des pauses. Et du coup, ça permet en fait au discours d'être beaucoup plus fluide et beaucoup plus audible.
Mais alors, c'est un truc qui est passionnant parce que moi, j'ai la chance de... Oui, mais Benoît, tu es toujours d'accord avec Bob, mais là, c'est Grégory Lefourne.
Je vais apporter un éclairage sur Grégory, là.
Ah ben, je t'en prie, Benoît, vas-y.
C'est pour corroborer ce que disait Grégory, il y a aussi l'effet inverse de parler vite. Il y a des gens qui, dans la timidité, ne veulent pas se mettre trop en avant, et pour ne pas se mettre trop en avant, veulent gagner du temps dans leur exposition. Et donc parlent très très vite, rapidement, pour vite se dégager de la lumière qui s'oppose sur eux quand ils prennent la parole. Et ça, effectivement, le fait d'apprendre à se calmer et à faire en sorte que j'expose mes idées peut-être à une vitesse plus lente à mes yeux, qui m'expose un peu plus, mais au moins ce que je dis sera mieux perçu et aura un peu plus d'impact. Enfin,
mais c'est clair que la timidité joue un grand rôle. Et juste pour préciser, Grégory, c'est quelqu'un avec qui je travaille maintenant depuis, Greg, ça y est, ça va nous vieillir, 6 ou 7 ans, ouais, 6 ans, et on fait des conférences tous les deux. Et c'est vrai que la prise de parole d'un acteur apprend certaines choses. Donc là, je parle à Grégory, pas à Bob, donc Bob, ne soit arrêté d'avoir le melon. Mais c'est vrai que plus poser sa voix, arrêter de bouger sur scène, parce que j'avais tendance à gigoter comme un malade, alors qu'au contraire, être posé, ben, c'est les gens, au lieu d'utiliser leur regard, vont utiliser leurs oreilles. Enfin, bref, la prise de parole d'un acteur, c'est vraiment intéressant. Regardez des pièces de théâtre, ce que je trouve, Greg, c'est quand tu joues que j'ai appris beaucoup de choses sur la prise de parole en général.
Mais déjà, en fait, faut aussi ça, c'était aussi une différence qu'on avait plus flagrante au départ, c'est que naturellement, en fait, moi, j'arrive à porter la voix, en fait, un petit peu plus
comme Patrick Patrick Bruel, un peu.
Exactement. Mais je vois qu'on est dans les vannes aujourd'hui, c'est bon. Ça.
Mais tout à fait.
Non, ce que je veux dire, c'est que naturellement, en fait, je parle assez fort, en fait, dès que je prends la parole. Je pense que ça, c'est à force d'avoir d'avoir répété, d'avoir appris à jouer devant du monde en théâtre. Dans la plupart des salles, il n'y a pas de micro, tu joues avec la voix, donc tu es obligé de la porter. Et du coup, en fait, le fait déjà de porter la voix, et ça impose déjà quelque chose dans le discours, et ça montre déjà que la personne est plutôt sûre d'elle, sûre de ce qu'elle va raconter.
Mais comme le disait Hervé Charles, il faut aussi savoir parler doucement pour recapter une attention qui est perdue.
Oui, exactement. Et je voulais. Alors, je n'ai pas entendu ça parce que je suis arrivé juste après, mais je suis d'accord avec cette partie. Et Benoît disait, effectivement, quand on parle vite, et ça, on le voit beaucoup, et que quand les gens, en fait, n'ont pas envie d'avoir la lumière sur eux, effectivement, le fait de parler vite, ça permet de, vite, on se dit, enlever la lumière sur soi. Et pourtant, c'est l'effet inverse, parce que les gens vont se demander, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il n'a pas l'air à l'aise? Et du coup, on se pose beaucoup plus de questions sur la personne plutôt que sur ce qu'elle raconte. Et ce qui est vraiment dommage, plutôt que si on fait l'inverse, on prend du temps, on explique les choses. Là, le personnage peut un peu disparaître et on va vraiment écouter le discours.
C'est super intéressant, Greg. Merci beaucoup. Alors, je fais un petit refresh de la room avant d'accueillir Bérénice sur le stage. Donc là, ici, on parle de maîtriser sa prise de parole sur que ça soit vocalement ou que ça soit par écrit. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour partager une expérience, poser des questions. Ou si jamais vous avez des tips, par exemple, je vois Rachid dans l'audience. Rachid, lui, son tips avant de parler, c'est de faire un footing de 42 km. Donc, c'est un peu chelou, mais c'est son truc. Coucou, mon Rachid. Et Arnaud, tu essayes de monter sur le stage, mais je n'arrive pas à te faire monter. Donc peut-être que si tu veux monter sur le stage, tu peux sortir et revenir, parce que parfois, il y a des petits bugs sur l'application. Bérénice, bonjour.
Bonjour et merci d'avoir corrigé ton erreur. On m'appelle toujours Béatrice, Bénédicte, tout ça. Mais non, c'est bien Bérénice.
Mille excuses.
Mais non, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir corrigé. Je vais revenir un petit peu en arrière. Du coup, je voulais rebondir sur ce que disait Léna et les deux interventions qu'elle a faites. À chaque fois, j'étais tout à fait d'accord avec elle pour parler en fait de la préparation. Moi, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de compétitions. J'étais en section sportive quand j'étais jeune. Et effectivement, encore aujourd'hui, quand je prends la parole, en fait, j'ai besoin de... ce que tu disais avec Rachid, c'est ça, juste avant, de me mettre dans une situation, dans un état d'esprit particulier pour pouvoir m'exprimer, pour avoir, entre guillemets, dans la tête comment ça va se dérouler. Et après, partir et parler aux gens. Et effectivement, je trouvais que Enfin, j'avais surtout une question. Enfin, moi, j'ai cette impression-là de, une fois que tout techniquement, en fait, que je maîtrise tout techniquement, j'ai l'impression que, bah, même si, bon, je m'enflamme un petit peu, mais c'est l'Olympia, je pourrais le faire parce qu'en fait, je maîtrise techniquement. Donc, même si je suis un peu stressée, même si, voilà, il y a un peu la peur de monter sur scène qui arrive. Et bien en fait, ça passe et je suis un peu dans un espèce de tunnel, entre guillemets, de technique. C'est-à-dire que c'est ça qui me rassure et en fait, ça fait un peu comme un trou noir. Je suis dans mon truc. Alors bien sûr, j'interagis avec les gens s'il y a besoin, mais en fait, ça enlève, ça me met dans une espèce de bulle.
Mais donc, je comprends. Et avant de passer la parole à Léna, en fait, je ne sais pas, Bérénice, est-ce que tu as ton permis de conduire, Bérénice ?
Tout à fait.
Et bien la prise de parole, c'est comme... quand on apprend à conduire, moi je me rappelle très bien, mais j'étais tellement paniqué, puis je me disais, faut que je débraye, que je passe la vitesse, et puis à un moment, on maîtrise, et ça devient quelque chose de naturel, on n'a même plus besoin d'y penser, ça devient des automatismes. Et la prise de parole, c'est vraiment exactement pareil, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Léna.
Tout à fait d'accord, et ce que Bérénice a dit est très important, je ne suis pas effectivement allée dans le détail, mais c'est vrai que se mettre dans un état d'esprit particulier peut être effectivement une très bonne chose, notamment via des exercices de respiration ou de méditation, pourquoi pas, pour justement réussir à maîtriser son souffle, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais c'est important quand on parle, maîtriser son souffle, son timbre de voix, que la voix soit bien posée, de maîtriser les silences, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça c'est important, en fait, tout ce qu'on peut utiliser pour capter l'attention du public. Et je voulais même rajouter, parce qu'on a parlé des gestes et de la posture, de faire aussi attention à ce que les gestes soient congruents, en fait, qu'ils viennent toujours renforcer la parole et non envoyer un message contradictoire. Donc c'est en fait le corps et la posture qui va aider à venir appuyer le message.
Mais parfois, Léna, alors ça c'est un vrai sujet, et j'aimerais bien avoir et ta réponse et celle de Greg en tant qu'acteur. Parfois, il y a des gens qui ont très clairement eu des coachings de prise de parole, ils font des gestes, t'as envie de leur dire « Hey gars, arrête avec tes mains, quoi. On t'a dit que pour insister, il fallait mettre les mains ouvertes plutôt que fermées. » T'as l'impression que dans leur tête, bah, ils ont répété les gestes, mais ils font même plus attention à leurs paroles et ça en devient ridicule. Faut que ça soit naturel quand même. Alors, Léna d'abord et Greg après, parce que honnêtement, il y a des speakers, de temps en temps, des conférenciers, je dis « Hey, je vais t'attacher les mains dans le dos parce que c'est insupportable. »
C'est vrai que certains speakers ont fait beaucoup de media training et malheureusement, ils ont, je pense, appris par cœur certains gestes. Le problème avec la gestuelle, c'est qu'il faut qu'elle soit naturelle. C'est-à-dire que connaître certains gestes, je pense, ça peut être pas mal, mais ce qui est important, c'est soit de se les approprier correctement, soit de partir avec les gestes qu'on a déjà. Je ne sais pas si je m'exprime.
Si, c'est très clair, mais justement, Greg, en tant que... comment tu fais pour adopter des gestes, et donc si tu travailles des gestes, c'est donc de facto que c'est pas naturel, et comment tu arrives à les faire passer pour étant naturel?
Alors c'est marrant, ça me fait penser à un domaine dans le jeu, c'est exactement la même chose, c'est le surjeu. Le surjeu, c'est quand, c'est tout simple, c'est quand on va en faire trop. Il y a une personne qui a réussi à passer le surjeu, c'était Louis de Funès, il en faisait beaucoup et au bout d'un moment, c'est devenu tellement naturel qu'on s'est dit, personne ne s'est jamais dit que c'était du surjeu. Et pourtant, au départ, le fait de surjouer, c'est d'en rajouter parce qu'on se dit que ce qu'on fait, ce n'est pas assez bien, que ce n'est pas assez drôle, que ce n'est pas assez dramatique, du coup, on rajoute des mouvements, etc. Moi, j'avais l'habitude d'en faire énormément en cours, je me souviens de ça, parce que tu as l'impression de ne pas être vu ou que les gens comprennent mal ton propos, donc tu te dis « mince, il faut que j'en rajoute », etc. Donc ça, en fait, ça se travaille parce que le surjeu, au bout d'un moment, il peut s'éliminer. Alors, c'est toujours mieux d'en faire trop au départ, en fait, d'aller vers le trop et après on gomme. En rajouter, c'est toujours un peu plus compliqué parce que ça demande de l'effort. Une fois qu'on a ajouté, on sait ce qu'on doit enlever. Et donc, pour les gestes et tout ça, pour moi, c'est des gens qui se sont dit, qui ont appris des choses, comme a dit Léna, qui se sont dit « écoute, ça marche, donc je vais en rajouter », ils vont le faire tout le temps. Sauf qu'il n'y a personne qui leur a dit au bout d'un moment, ça c'est cool, mais là il y en a peut-être un petit peu trop. Là aussi, réduis un petit peu, va plus doucement, tu n'es pas obligé de faire 5000 gestes, un ou deux, ça sera… Parce que parfois, en fait, il y a des gens qui sont très très forts là-dessus, qui vont faire juste un ou deux gestes et qui sont tellement bien marqués qu'ils deviennent d'une grande importance.
Et là, tu parles de moi en conférence, c'est ça mon Greg?
Oui, exactement. Je voulais juste rajouter un petit truc pour aussi rassurer les gens sur un discours, une prise de parole en public, il ne faut pas oublier qu'il y a un truc qui existe, c'est comme dans le jeu, c'est le track. Le track, c'est très bon, c'est important d'en avoir. Je ne sais plus quel comédien disait quand j'aurai plus de track en rentrant sur scène, il faudra que j'arrête d'être comédien. C'est pareil pour la prise de parole, c'est normal d'avoir du track. Le track, il va disparaître au bout d'un moment. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur de ce truc de « Oh, je rentre sur scène, je vais devoir parler, je ne vais pas savoir parler. » Ça prend quelques petites secondes à être à l'aise. C'est normal, c'est tout le monde pareil. Même les plus grands speakers, en rentrant sur scène, moi, je vous assure, j'en suis persuadé, ils ont tous un petit peu de track parce que, bah, parce qu'on a envie d'être bon, on a envie que les gens nous disent « Ah, c'était super ce que tu as fait. Ah, c'était drôle, c'était intéressant, etc. etc. » Et je pensais à un truc tout à l'heure, juste pour terminer. C'est souvent que ça se fait dans des discours, des prises de parole. Il y a des gens qui utilisent ce petit truc de faire un petit trait d'humour pour commencer. Alors, je ne dis pas de balancer une énorme vanne, mais juste un petit trait d'humour, ça permet en fait de détendre l'atmosphère et de se dire « Ah, ça y est, les gens m'apprécient ». Et à partir du moment où on sait que les gens, on est apprécié par le monde, et ben, tout d'un coup, à l'intérieur de soi, quelque chose de ah, comme un poids qui s'en va et on se dit « Bon ». Allez, c'est plus simple, et là, ça devient beaucoup plus naturel.
Mais il y a le côté être apprécié, mais surtout, moi, c'est en tant que conférencier, c'est mon métier, comme tu le sais, Greg, c'est le côté capter l'attention dans les 10 premières secondes. Et la prise de parole, c'est souvent ça, capter l'attention. Alors, je fais un petit refresh avant, Céline, de te passer la parole, parce que j'ai vu que tu as clignoté. Petit refresh de la room, on parle de la prise de parole. Alors là, on parle beaucoup de la prise de parole orale, donc si vous avez des commentaires ou des tips, n'hésitez pas, mais on peut aussi parler de la prise de parole écrite, parce que j'aurai beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le sujet également, je suis sûr que vous aussi. Céline, c'est à toi.
Oui, je voulais revenir sur ce que disait Léna tout à l'heure à propos de la congruence. Et en fait, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé tout à l'heure. Tu as parlé de sincérité au tout début, mais tu n'as pas parlé d'authenticité. Et je pense que c'est la clé dans nos prises de parole. Quand on est authentique, au-delà de la congruence, de la sincérité et de tout ce qui a été dit jusque-là...
Alors Céline, je vais t'interrompre et je vais passer pour un débile, mais je suis persuadé qu'il y en a plein qui sont dans mon cas. Je n'ai jamais su ce que c'était la congruence. Donc si tu pouvais la définir...
Alors, en maths, la congruence, c'est tu peux le traduire en normal, en langage normal, par quelque chose de convergence, quand tout est parfaitement aligné.
Ok.
Voilà. Donc, excuse-moi, du coup, j'ai oublié ce que je disais. Comme ça, c'est bien. Oui, je disais, si tu es congruent et donc que tu es aligné, je pense que ta gestuelle devient beaucoup plus naturelle et que du coup, le surjeu dont parlait Greg tout à l'heure, qui pour moi peut être... Enfin, moi, c'est dérangeant, quelqu'un qui surjoue le truc, au bout d'un moment, je décroche parce que j'ai du mal à l'écouter et à le regarder en même temps. Et je pense que si on atteint cette notion d'authenticité et de congruence, je pense que tout ça s'aligne pour l'avoir vécu et faire, comme toi, des conférences sur la bienveillance où je suis plutôt posée. Le fait, pardon, que ce soit posé, calme et que la gestuelle aille avec le discours, je suis généralement beaucoup mieux entendue et comprise que si je m'amusais à courir partout sur scène.
C'est clair, mais en fait, il y a un truc que Greg a dit que je trouve très juste, et je fais le lien avec l'écriture, mon Greg, c'est autant commencer en faisant trop et gommer après. Dans l'écriture, c'est pareil, c'est un crève-cœur quand tu fais un roman ou un livre, à un moment, tu dois enlever des chapitres, tu dois enlever des paragraphes, tu dois faire ce genre de choses, et c'est compliqué, mais c'est bien parce que c'est un bon exercice. Alors Greg, j'ai senti que tu voulais parler, mais d'abord on va donner la parole à Hervé Charles et on accueillera juste après Luella. Hervé Charles, j'ai cru voir ton micro clignoter.
Parfait, merci. Oui, je voulais simplement rebondir sur ce que disaient Léna et Bérénice. Bérénice, c'est l'activité sportive. Et c'est vrai qu'on a tous, on traque tous. Ça m'arrive aussi de faire des conférences. Et on a tous le traque, et heureusement qu'on l'a. Parce que le traque vient de la peur. Et la peur, c'est l'une des émotions qui nous permet de rester en vie. Ça, c'est le premier point. Généralement, ça part au bout de 20, 30 secondes, quelque chose comme ça. Oui, il faut une trame technique. Oui, vous avez raison, il faut maîtriser son sujet. Oui, c'est quand même préférable. Mais je vais vous donner, si tu me permets, Gaël, je vais prendre 2 minutes pour expliquer quelque chose.
T'en prie.
Et vous donner une astuce. Et je vous donnerai un exemple. C'est que tout à l'heure, j'ai parlé d'estime et de confiance en soi. Et quand on réussit, quand Bérénice, vous réussissez les épreuves, forcément, votre entraîneur, je suis certain, qui vous demandait de vous remémorer vos réussites, qui vous demandait de regarder tout le travail que vous aviez effectué. Et en fait, ça va enclencher des éléments. Est-ce que vous avez déjà peut-être entendu parler de ce qu'on appelle les marqueurs somatiques ? Je ne suis pas certain, mais je vais le faire en plus clair. Quand je regarde la room, il n'y a personne qui a 4 ou 5 ans. Eh bien, je vais tous vous demander de vous remémorer votre tout premier petit bisou. Le tout premier, le premier innocent. Alors Bob, c'était hier, désolé, ça compte pas pour vous, c'est un peu plus compliqué, mais les autres, est-ce que vous êtes souvenus de votre premier petit bisou? Soyez honnête.
Moi, j'ai aucun souvenir d'enfance, pour être honnête.
Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent, ou je suis tout seul?
Oui, je me souviens.
Merci beaucoup, Sam. Je me sens un peu moins seul sur ce coup-là. Et simplement, ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a des images qui reviennent. Il y a peut-être un lieu, il y a peut-être un prénom. Alors des fois, on le revoit plus tard, on se dit « Oh là là, mon Dieu, quelle horreur !» Mais en attendant, il y a plein d'émotions qui vont ressurgir. Et ça s'est enregistré dans une partie de l'inconscient, qui s'appelle un marqueur somatique positif, parce qu'en général, le premier bisou est agréable. Mais ça vous a permis de passer le deuxième, troisième petit bisou, tous ceux qui ont suivi derrière, avec moins de trac, avec moins de peur. Et quand on prépare une prise de parole en public, c'est la même chose. C'est-à-dire que oui, il faut des paramètres techniques, il faut connaître son sujet, vérifier les paramètres, j'allais dire, logistiques. Mais également, avant, on doit se remémorer tout ce qu'on a réussi pour arriver jusque-là. Et vous verrez, ça fait baisser votre trac, ça augmente votre estime, ça augmente votre confiance. Et surtout, ça va vous donner plus d'assurance.
C'est super intéressant parce que c'est vrai, on en parle dans beaucoup de rooms de ça, de notre satané cerveau qui retient beaucoup plus le négatif que le positif. Et donc parfois, se remémorer ses émotions positives dans des prises de parole ou dans d'autres choses, c'est pas inutile. Et au lieu de se flageller avec des orties fraîches, se dire « Ah ouais, c'est vrai, j'étais pas mal dans cette prise de parole ». Et peut-être que cet exercice, Hervé Charles, après une prise de parole, on peut essayer de se faire, quand on commence à prendre la parole, une sorte de débrief, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, que je peux améliorer. Et c'est comme ça que tu te génères toi-même ta mémoire, c'est ça, en fait.
Mais c'est exactement, ça va s'enregistrer dans une partie de l'inconscient qui va nous rassurer systématiquement, parce que derrière, on va dérouler. Alors, je ne voudrais pas monopoliser, mais à chaque fois qu'on réussit des petites étapes, parce qu'une réussite, c'est parsemé de plein de petites étapes avant qui sont réussies. En théorie, il faudrait mettre des éléments positifs. C'est-à-dire, je ne sais pas, on réussit la préparation de son écrit, par exemple, je dis n'importe quoi sur l'exemple, aller s'écouter sa musique favorite, la première préparation devant le miroir ou devant une caméra, aller manger son gâteau favori, peu importe, etc. Et ce qui veut dire que le jour où on va effectivement prendre la parole, c'est se remémorer cette histoire de musique, cette histoire de gâteau. Et encore une fois, le stress baisse.
Ouais, mais c'est clair. Et c'est vrai qu'on est très souvent bloqué par son stress, Hervé Charles. Alors, la room avance, et malgré tout, on est quand même un peu limité par le temps. Donc, avant de donner la parole à Luella, qui a rejoint le stage, j'ai vu que Benoît et Emmanuel voulaient prendre la parole. Je voulais faire un petit clin d'œil à quelqu'un qui est dans l'audience, qui est Arnaud. Alors, un, qui me souhaite bon anniversaire, mais mon cher Arnaud, c'est demain, mais qui nous dit que les yeux sont le miroir de l'âme, c'est Charles Baudelaire qui a dit cette phrase. Donc Arnaud, mille merci pour avoir remis à jour ta pépé pour faire passer un message. Mille merci à toi. Alors, Luella, je t'en prie, la parole est à toi.
Oui, bonjour à tous.
Salut.
En fait, oui, je vous ai pris au vol, donc je n'ai pas écouté depuis le début. Et je m'excuse d'avance si je vais parler des choses peut-être qu'on a déjà évoquées.
Alors, Luella, tu sais que j'ai une super bonne nouvelle pour toi. Comme je le disais, pour la première fois, cette room va être enregistrée, est enregistrée, et donc tu pourras écouter le replay sur Happy Work, sur Spotify, sur iTunes, sur ce que tu veux. Donc, si tu veux voir ce qui s'est passé, mais pose ta question, si on y a déjà répondu, on te fouettera avec des orties fraîches.
Merci, je voulais juste apporter quelques éléments. Le premier, dès que je suis montée, Céline me l'a arraché, c'est l'authenticité. En fait, moi, je suis pas conférencière, je travaille pour y devenir, mais j'ai longtemps fait de la formation professionnelle en entreprise. Et puis, à l'époque, j'étais très jeune, très fine, très petite. Et puis, je faisais de la formation sur des sujets que je maîtrisais même quand même, mais à des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, qui avaient plusieurs années d'expérience et tout. Donc, j'avais développé certains tips pour pouvoir tenir. Par exemple, j'avais besoin de balancer mon énergie avec l'énergie de la salle. Donc, c'est là que je disais, je ne sais pas si quelqu'un en a déjà parlé. Qu'est-ce que je faisais? Parce que pour ne pas être intimidée, bon, d'abord, je suis rarement intimidée, mais parfois, vous apparaissez devant les gens et puis se disent, ils ne vous le disent pas, mais vous lisez dans leur regard, c'est qui cette petite fille? Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre? Donc, parfois, j'avais besoin de rentrer un peu plus tôt dans la salle, de balancer mon énergie avec l'énergie de la salle. Et parfois, quand il y avait déjà quelques participants, de rentrer dedans, de faire un tour.
Mais quand tu dis lancer ton énergie, c'est ce que je vois visuellement, ce qu'on peut faire dans Dragon Ball Z quand tu lances ton énergie, mais dans la vraie vie, c'est comment tu lances ton énergie?
En fait, je ne sais pas, il faut que quand je suis dans la salle, ce n'est pas quelque chose qu'on explique, c'est quelque chose qu'on vit. Quand je suis dans la salle déjà, j'ai besoin d'équilibrer tout ce que j'ai comme ressenti, sentiment, appréhension, trac, avec ce que la salle dégage, parce que je me déplaçais beaucoup. Parfois, c'est des salles que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas, etc. Si c'est des salles, par exemple, la salle de conférence de mon entreprise, c'est d'accord, je la maîtrise bien. Mais parfois, je devais me déplacer ou bien des salles qu'on louait. Je devais déjà, par rapport à l'écho, quand je parle, la position que je dois prendre. Et parfois, je privilégie certains coins de la salle. Ou bien, si je dois me mettre au centre selon la géométrie de la salle, il faudrait que je sache comment est-ce que je vais me positionner pour dominer un griffe. C'est pas forcément dominer négativement, mais avoir la maîtrise, le contrôle, non seulement de la salle, mais des participants, et aussi que mon message porte comme il faut. C'est-à-dire que ça ne soit pas ennuyeux.
Mais en fait, tu es là, tu sais que ta réflexion me fait penser à quelque chose, et je vais poser une question à Greg, qui est l'acteur de la bande. C'est une vraie question, c'est pour se rassurer, est-ce que c'est vrai qu'il faut regarder le fond de la salle, et est-ce qu'on ne risque pas de perdre en attention de la part du public, ou est-ce qu'il faut regarder tout le monde, Greg?
Moi, généralement, j'aime bien regarder les gens parce que je me dis, il faut que je me confronte. En fait, il y a des gens qui sont là.
Oui, mais toi, tu es un professionnel. Tu donnerais quoi comme conseil au début? Justement, de regarder le fond de la salle ou de te focaliser sur une personne, quitte à exclure des gens?
C'est deux façons de faire. Je ne sais pas s'il y a vraiment une meilleure façon. Parce que ce que disait Luella, quand tu rentres, le fait de lancer l'énergie, moi, je comprenais ça en... Moi, c'est ce que j'aime bien faire aussi, par exemple, c'est de rentrer d'une façon assez dynamique pour être sûr d'avoir l'ascendant sur les gens. Ça, c'est hyper important de se dire, allez, le public, je vais le manger, c'est le mien, hop, je vais être génial sur scène. Ce que disait aussi tout à l'heure Hervé Charles, c'est de rentrer avec des pensées hyper positives. Ça, c'est sûr que c'est ce qui est beaucoup mieux, ce qui va vraiment aider dans la confiance en soi, de rentrer vraiment, allez, j'y vais. Cette fois-ci, je vais le public, il est à moi. Il y a rien qui pourra me déstabiliser. Donc, si la personne est plus à l'aise en ayant son regard un petit peu au loin, en évitant d'avoir les yeux des gens directement, pourquoi pas? Maintenant, c'est vrai que le regard des gens peut déstabiliser. Après, il y a d'autres personnes qui préfèrent prendre des gens vraiment dans le regard parce qu'ils savent que là, s'ils ont cette personne, ces personnes-là, ils auront carrément toute la salle. Donc, je ne sais pas s'il y a deux façons.
Greg, alors, moi, je m'inscris un tout petit peu en faux, quand même. Avant de donner la parole, il y avait Benoît, Emmanuel et Léna juste après. Mais...
Il y avait un tout petit truc à rajouter après, mais vas-y, dis-moi.
Ouais, oui, bien sûr, je te redonnerai la parole juste après. Mais je pense qu'il y a quand même une erreur à éviter, c'est de choper une personne et de regarder que cette personne pendant toute sa présentation ou toute sa conférence, que là, tu exclus tout le monde.
D'accord, alors. Ah oui, non. Alors là, je me suis mal exprimé là-dessus. C'est important de parler à toute la salle. Ça, tu peux pas arriver et parler au premier rang. Bien évidemment, sinon, tu exclus le reste de la salle et du coup, ils se sentent pas impliqués. Ils se disent que c'est pas pour eux, quoi, que ça soit une
conférence. Ouais, donc on est bien d'accord.
Discours, peu importe. Ah oui, là, c'est hyper important de considérer toute la salle. Mais moi, je parlais vraiment de l'entrée du départ. Suivant ce qui met à l'aise chaque personne, si c'est de regarder un petit peu dans le vide un peu partout ou alors fixer 2-3 personnes. Après, bien évidemment, c'est hyper important d'aller parler aux gens à droite, à gauche, au fond, devant, de prendre l'espace.
Toi, tu es en train d'écrire des paroles de chansons, non?
Ça pourrait. Mais non, mais c'est pour ça qu'en fait, que quand on se déplace sur scène, tu vois bien, quand on est ensemble, généralement, moi, j'aime bien aller à gauche de la scène, à droite, devant. Parce que je sais qu'à ce moment-là, en faisant ça, je considère vraiment toute la salle et tous les gens se sentent impliqués par ce que je raconte. Et du coup, ils ne peuvent pas passer à côté du discours. Ils sont vraiment dedans parce que s'il y a des gens que je sens que j'ai négligés sur la droite, je vais me décaler pour aller parler un petit peu à eux. Ça, c'est hyper important de considérer toute la salle. Et juste un truc, deux derniers trucs pour rebondir, juste que ça ne soit pas mal pris. Le surjeu, bien évidemment que c'est négatif, hein, ce que je disais tout à l'heure, parce que du coup, Céline a repris derrière en parlant du surjeu, et oui, effectivement, c'est négatif. Il ne faut surtout pas être en surjeu, ça c'est un truc. Je disais juste que ce n'est pas gênant d'arriver au surjeu si après on sait comment l'enlever. Ça, c'était un premier truc. Et le deuxième chose, c'était sur ce que disait Hervé Charles, de se rappeler des bonnes choses, etc., pour rentrer sur scène. Ça, c'est une très bonne chose. Par contre, quelque chose qu'il faut éviter, c'est d'essayer de reproduire une prestation qu'on a fait avant. Parce que généralement, ce qu'on peut se mettre en tête, c'est on se dit « Ah, ce jour-là, j'étais bien parce que je faisais ça, je me déplaçais là, je faisais mes phrases de cette manière, etc. » Ça, c'est jamais bon parce que tu vas vouloir reproduire et tu ne feras jamais aussi bien. Et limite, peut-être tu feras beaucoup moins bien. Donc, il faut être juste sûr de soi, de ce qu'on va dire, de la prise de parole qu'on a, et après se faire confiance et être naturel. Et les bonnes choses reviendront naturellement.
Super. Alors, Greg, tu le sais, les personnes qui connaissent le savent, j'ai un énorme défaut, c'est d'adorer être ponctuel. Donc, cette room dure une heure. Donc, si vous levez la main, c'est maintenant. Alors, Lady Awa, j'essaie de te faire monter, mais je n'y arrive pas. Donc, peut-être sors et essaie de re-rentrer. Avant de donner la parole à Benoît, Emmanuel, Léna et je crois que Hervé Charles, lui est là. Est-ce que ce qu'a dit Greg, ça te parle ou je t'en prie, continue à partager.
En fait, c'est parce que je n'avais pas fini.
Ok, mais tu as la parole. Mais il faut essayer d'être super bref parce qu'on arrive vers la fin de la room et c'est cool si tout le monde peut prendre la parole. Je t'en prie, Luella. Vas-y.
La dernière chose dont j'aimerais parler, c'est le magnétisme. Et puis, aborder une partie de la question, le fait de ne pas fixer une seule personne. Mais moi, je vais chercher mon magnétisme aussi sur deux, trois personnes que je sens vraiment que... J'ai de l'ascendance sur ces personnes et dès que je me connecte avec ces personnes-là, le magnétisme, il devient général. Donc, je pense quand même que le magnétisme, c'est pas que le regard, c'est aussi la maîtrise de son sujet. Quand vous maîtrisez très bien votre sujet, oui, vous pouvez avoir beaucoup d'impact sur les gens et dès que les premières minutes passent, le reste devient magique. Merci.
Merci beaucoup, Lula. Et je rajouterai quelque chose. Quand on maîtrise son sujet, essayez d'éviter de lire un document quand on présente en réunion. Il n'y a rien de pire que les gens qui mettent un PowerPoint et on sait qu'il va y en avoir 50 et qui lisent le PowerPoint. Pour perdre une audience, il n'y a rien de mieux. Alors, je crois, Benoît, tu voulais intervenir et Emmanuel. Donc, on va essayer de faire bref avant d'accueillir Lady et Pascal. Benoît, c'est à toi.
Je vais faire très court. En fait... On a une chose en commun, Gaël, tu le sais, moi j'en avais déjà parlé ailleurs, mais on a eu fait de la musique et on s'est déjà produit devant un public. Alors ça ne veut pas dire que faire de la musique et devant un public, il faut être une gloire, on s'en fout de ça. Mais la démarche, elle est toujours orientée vers ce qu'on veut donner et espérer qu'il sera entendu. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve les mêmes techniques, exactement la même chose. Se préparer avant... maîtriser peut-être l'accroche et surtout ce qu'on entend, que ça soit de la parole ou des notes de musique, maîtriser un tempo. Enfin, il n'y a rien de plus triste qu'une musique monotone et vous allez perdre tout un auditoire.
Ah bah, mon Benoît, c'est clair que quelqu'un qui va parler comme ça, qui va te présenter des chiffres et tu sais que tu en as pour une demi-heure, tu as envie de mourir, bien entendu.
Voilà. Donc en fait, c'est une prestation musicale, prendre la parole.
Ouais, c'est très juste. Ouais, merci beaucoup Benoît pour ce parallèle parce que c'est exact. Emmanuel, tu voulais prendre la parole tout à l'heure, je crois.
Je voulais juste, justement, c'était pour toi, Hervé Charles. Selon vous, quelle est c'est la maîtrise de la parole écrite ou justement à l'oral qui vient le premier quelle est la position, enfin, est-ce que l'un amène vers l'autre ou,
ben, moi, je pense que les deux sont intimement liés, les règles sont les mêmes. Quand je parlais de faire des phrases courtes, bah, faut faire des mails courts. Il n'y a rien de pire que des mails avec des phrases qui font trois pages. En gros, la règle pour la prise de parole par écrit, pour en parler brièvement, parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais c'est dès que ça dépasse 10 lignes, bah, faut passer un coup de fil et faut pas faire de mail parce que tu as perdu ton auditoire. Les mails, quand tu as un mail d'une page à lire, si tu réussis à le réduire à une demi-page, tu gagnes 47% de taux de lecture. Si tu le réduis encore de moitié, donc ça fait juste 10 lignes, tu gagnes encore 24% de lecture. Plus tu es concis dans ton écrit, et c'est pour ça que les deux sont intimement liés. Et ça, c'est Greg qui m'a un peu poussé à ça de temps en temps, à écrire mes conférences, que moi j'ai un peu tendance à parler freestyle. Quand tu écris, bah, c'est là où tu apprends la synthèse, et je pense que plus tu es synthétique, plus tu es impactant, parce que je le rappelle, et là c'est vrai, ça va être interrogation Emmanuel, quand on parle, quel pourcentage les gens vont retenir de ce que tu dis ?
50%.
Oh mais quel bon élève cet Emmanuel. Je vais passer la parole à Léna,
merci
ensuite,
en tout cas.
Ouais, avec plaisir, et ensuite on va accueillir Lady et Pascal, et comme on arrive à la fin, on va faire bref. Léna, je t'en prie.
Oui, brièvement, je voulais juste intervenir par rapport au regard. Et moi, ce que je conseille en général, c'est de... Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Bob. Pardon, je n'ai pas retenu ton vrai...
Grégory Lefourne.
Ah, Grégory, pardon. Moi, je conseille toujours de balayer le regard et de s'attarder de temps en temps, idéalement sur des visages ou des regards bienveillants. Voilà, pour renforcer un petit peu sa confiance, mais de toujours voilà, balayer pour s'adresser à tout le monde.
Ouais, c'est clair, identifier la personne qui va t'envoyer des ondes positives si jamais tu as un moment de stress parce que tu t'es trompé, c'est toujours hyper important d'avoir ces points de repère. Tu as totalement raison, Léna. On va accueillir... Pardon, excuse-moi Léna, tu n'avais pas fini peut-être.
Bah en fait, le dernier point, voilà, c'était quand, effectivement, comme pour une prestation, hein, que ce soit musicale, de danse, etc., c'est toujours d'entrer avec un très haut niveau d'énergie. Pardon, mais tu l'as dit tout à l'heure. Ça, je pense que c'est important de travailler. Enfin, ça en revient à la préparation et ce que disait Bérénice, de travailler vraiment son niveau d'énergie pour que quand on rentre, le public puisse sentir qu'on est bien présent et qu'on a un très haut niveau d'énergie positive. Voilà.
Ok, merci beaucoup Léna. Lady Awa, c'est à toi, tu as la parole. Est-ce que tu as des tips ou une question?
Bonjour à tous. En fait, moi, je suis arrivée il n'y a pas longtemps, mais je vous ai entendu parler des regards, tout ça. En fait, moi, je suis non-voyante et je voulais dire que, bon, pour moi, Moi, personnellement, je ne peux pas capter le regard de quelqu'un pour m'accrocher à ça, pour pouvoir continuer à parler et être à l'aise. Sauf que moi, je me dis que je maîtrise ce que je dis plus que ceux qui m'écoutent. Et plus ils sentent l'assurance dans ma voix, plus je vais les captiver. Donc moi, c'est à cela que je m'accroche, même si je sens le regard des gens sur moi. Donc avant, le fait de capter mon auditoire, ça me déstabilisait un peu parce que je me dis, oh, ils m'écoutent tous, donc j'espère que je vais pas dire de bêtises et que je vais pas me planter. Mais après, je l'ai utilisé, j'en ai fait une force. Donc, je me dis, je maîtrise la chose que je dis plus qu'eux. Donc, maintenant, il faut que je leur transmette ce que je dois leur transmettre avec une assurance, avec une telle assurance que, voilà, eux, ils vont pouvoir retenir ce que je dis sans pour autant se dire, waouh, elle est paniquée. Parce que quand je panique, ils ne vont plus s'intéresser à ce que je dis, mais ils ne vont s'intéresser qu'à ma gestuelle qui leur montre que je suis stressée.
Mais c'est génial ce que tu dis, Lady Awa, parce qu'en fait, tu confirmes un petit peu que en fait, la parole, c'est une vraie musique et toi, tu es uniquement focalisée là-dessus et que tu le maîtrises parfaitement.
Bon, je ne dirais pas que je le maîtrise parfaitement, mais...
Non, mais dans le décodage que tu peux avoir des mots des autres, j'imagine que tu perçois des émotions que nous, on ne va pas forcément percevoir dans une voix, un tremblement, une hésitation, ce genre de choses, des silences ou des speeds, non ? Lady, on t'a perdu, malheureusement, dans la connexion. Écoute, on reviendra vers toi si tu reviens dans un endroit où ça capte mieux, puisqu'on t'a perdu totalement.
Oui, parce que je ne vous entendais plus.
Super, te revoilà. Donc, j'avais le sentiment que ce que tu nous décrivais en tant que non-voyante mettait vraiment en exergue le côté musical de la parole et l'importance de maîtriser ses silences, sa rapidité, et qu'on fait passer des émotions. J'imagine que toi, tu perçois ces émotions de façon décuplée par rapport à nous voyants, où on va effectivement aussi faire attention au langage physique.
Oui, justement, parce que moi, je me dis, moi, je me concentre plus sur ce que la personne dit, alors que vous êtes un peu déconcentré par la gestuelle, quoi.
Ouais, mais c'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour ton partage. Et on va laisser la parole, alors c'est je me fais mentir, on va être en retard, mais comme j'ai fait monter Pascal, bien entendu, je vais donner la parole à Pascal, et après, on laissera un mot de la fin à tous les
merci
modos.
À vous.
Merci à toi. Pascal, bienvenue.
Bonjour, merci. J'avais quelque chose à ajouter par rapport à cette notion de surjeu ou pas surjeu. C'était la question des ruptures. C'est quelque chose qui est très très utile au théâtre notamment. Les ruptures, c'est quand il y a un changement remarquable dans le discours. Et donc on peut utiliser les ruptures sans faire de surjeu, mais utiliser les ruptures pour à des moments parler plus vite et puis à des moments parler moins vite et à des moments parler moins fort, des moments parler plus fort et faire des ruptures d'émotions, des éléments comme ça qui sont un peu techniques mais qui permettent de conserver l'attention de son auditoire tout le temps, en permanence.
On est d'accord, voilà. Pascal, mais ça, je sais que ce sont des choses importantes, mais histoire de ne pas faire flipper tout le monde qui voudrait prendre la parole, j'ai envie de dire que quand tu commences à maîtriser ça, c'est un petit peu comme en judo quand tu es ceinture noire, deux ou troisième dan. Mais on peut commencer à prendre la parole sans forcément maîtriser tout ça, avoir conscience que ça existe et d'apprendre petit à petit. On est d'accord, il ne faut pas maîtriser tout ça pour commencer à se lancer.
Non, il ne faut pas le maîtriser pour commencer à se lancer, mais en fait, on s'en rend compte quand j'anime une formation prise de parole, par exemple, que c'est une vraie découverte pour certaines et certains, et que très vite, on s'approprie cette notion de rupture qu'on utilise tous les jours quand on raconte une histoire à la machine à café ou qu'on est en famille ou quoi. On l'utilise, juste on ne pense pas à le faire en prise de parole parce qu'on est dans une situation qui n'est pas habituelle. Mais ce n'est pas la ceinture noire de prise de parole. C'est quelque chose de naturel qu'on oublie d'utiliser parce qu'on est en mode « je suis en prise de parole ».
Mais parce que, mais en fait, tu sais que j'avais jamais réalisé ça. C'est vrai qu'en fait, on maîtrise tous et toutes la maîtrise de parole quand on est à un restaurant ou à un dîner avec des potes. Et parce qu'on est en situation de stress dans une réunion ou situation de stress parce qu'on va monter sur le stage de Clubhouse ou peu importe, finalement, on oublie ce qu'on maîtrise déjà. C'est hyper intéressant. Merci.
Exactement.
Pascal. C'est
avec plaisir.
Non, mais c'est limite flippant, en fait, ce que tu viens de dire. Si je réalise que...
Désolé de faire flipper en fin de room.
Non, mais en fait, mais c'est intéressant parce que je le dis souvent, c'est parler aux gens comme vous parlez à vos amis, avec le degré de langage différent, mais c'est vrai qu'on a une prise de parole généralement qui est plutôt bonne naturellement parce que c'est une des premières choses qu'on apprend avec la marche. Certains apprennent à parler d'abord et après à marcher. Donc Bob, je pense qu'il a appris à marcher avant de parler. Mais... non, c'est super. Merci pour ce rappel. Alors, on arrive à la fin de la room, donc je vais laisser un mot de la fin à tous les modérateurs, y compris, alors Greg, j'ai oublié de te mettre en modo, mais tu es modérateur. Si vous aviez une phrase de conclusion rapide, Céline, ça serait quoi? Ou un tips, ou une phrase de conclusion, c'est à toi.
Alors, tu me prends un peu au dépourvu, ça tombe bien, c'est le sujet. Non, je voulais simplement te remercier parce que c'était très, très, très intéressant. J'ai appris et j'ai pu partager avec des gens. Donc, juste pour ça, merci et bon week-end à tous.
Mais avec grand plaisir, Céline. Et pour rappel, pour celles et ceux qui sont arrivés en retard sur la room, le replay sera sur Happy Work, sur toutes les plateformes, à partir de dimanche matin. Benoît, ton mot de conclusion?
Le silence est juste votre ami lorsque vous l'évoquez, justement, en faisant silence, il apporte du poids à ce que vous dites.
Mais c'est tellement vrai, et parfois on a peur du silence. Ça me fait penser aux guitaristes de hard rock qui font des solos où il y a des notes à peu près toutes les millièmes de seconde, alors que parfois, un petit silence, c'est pas mal. Merci Benoît pour ce rappel. Léna.
Je voulais rappeler que la peur de parler en public est la première peur citée au monde avant même la peur de mourir. Donc je voulais dire à tout le monde...
Sérieux ?
Ça a bien se passé. Ouais.
Ok, donc ça nous fait encore plus flipper. Merci Léna. Non, je rigole.
Non, mais c'est
important de rappeler que c'est naturel d'avoir peur de parler en public. On n'est pas idiot parce qu'on a peur de parler en public. C'est normal, c'est pas quelque chose qu'on fait. Alors que, comme le rappelait Pascal, on le fait quasiment quotidiennement avec nos amis. Donc c'est merci beaucoup. Emmanuel, un petit mot de la fin?
En fait, je ne connaissais pas trop ton sujet et je vous invite tous à aller voir mon dernier post sur LinkedIn. C'est justement la maîtrise de la prise de la parole et c'est un post avec Jean-Claude Van Damme qui parle de la pyramide des émotions. C'est pas mal en fait. Je vous invite je vous fais une petite pub à aller voir ça.
Ah bah si tu fais appel au plus grand philosophe de la planète, j'ai envie de te dire, faut forcément aller le voir. Merci Emmanuel. Alors Hervé Charles, tu n'es pas modérateur, mais j'ai envie que tu nous fasses un petit mot de la fin quand même, parce que tu es là très souvent sur Happy Work, donc je t'en prie, un mot de la fin.
Alors, il faut que je change parce que moi j'allais dire, c'est paradoxal, maîtriser sa prise de parole, l'important c'est le silence, parce qu'on récupère énormément d'informations. Donc je vais changer et simplement dire que quand vous êtes en réunion, quand vous avez peur de prendre la parole, dites-vous, ceux qui sont face à vous, ils aimeraient être à votre place, mais plus de la moitié n'oseront pas franchir ce pas, donc vous avez de la chance.
Ouais, et tu sais quoi Hervé Charles, merci pour cette conclusion, parce que ça me fait penser à quelque chose, moi j'ai commencé à aimer prendre la parole en public quand c'est devenu un jeu. Et aujourd'hui, je suis conférencier, mais et Greg pourrait en témoigner, je suis presque comme un acteur dans le sens où je m'amuse, quoi. Je m'amuse vraiment.
Je vais te dire, c'est la même chose. À la base, je suis super timide, super tout ce que tu veux, et je me suis amusé, je rêvais de monter sur une scène, faire des conférences, donner des cours. Aujourd'hui, mais je prends ça comme un jeu, parce que je m'amuse à chaque fois. Et c'est, ouais. Enfin, ça fait partie de mes secrets, et c'est vrai que c'est une éclate totale, en fait.
Et plus on le fait, plus ça devient drôle, et c'est rigolo, parce que Bob, le pire manager du monde, est arrivé en retard, parce que c'est le pire manager du monde, mais pour information, pour celles et ceux qui ne le savent pas, Bob est un personnage fictif joué par un acteur formidable qui, en plus d'être un acteur formidable, est un ami, qui s'appelle Grégory Lefourne, et je suis sûr, Greg, que tu arrives en retard pour avoir le mot de la fin de cette room. Donc Greg, et pas Bob, je précise, Greg, quel est ton mot de la fin sur la prise de parole? Si tu avais le conseil ultime à donner, ça serait quoi?
Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça va peut-être marcher.
Voilà, alors une citation des bronzés, j'ai envie de dire bravo.
Non, mais ça ne va pas rejoindre ça, mais voilà, dites-vous que ce n'est pas inné. Peut-être que votre voisin fera pas forcément beaucoup mieux. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, il faut croire en soi. Il faut se dire que voilà, si, comme disait juste avant Hervé Charles, si quelqu'un était dans le public à votre place, bah, peut-être qu'il ne ferait pas aussi bien, peut-être qu'il aurait même plus peur que vous. Il faut le faire. Et franchement, toi, tu as pris petit à petit, là, comme vous dites, vous avez pris tous les deux plaisir à le faire. C'est que vraiment, quand on est sur scène et qu'on voit que les gens écoutent ce qu'on raconte, c'est hyper, hyper, hyper sympa. C'est vraiment du bonheur et on se dit « Ah, on a bien fait d'être là ». Donc, allez-y. Lancez-vous, ça ne sera peut-être pas une réussite du premier coup, mais deuxième, troisième, ça sera bien après, c'est sûr.
C'est clair. Alors Greg, je vais être obligé de faire un vrai mot de la fin pour fermer la roue, mais merci, je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'en fait, il ne faut surtout pas essayer de ressembler à des grands orateurs, il faut être soi-même. Et moi, quand je regardais les keynotes de Steve Jobs, j'étais terrifié en me disant « mais jamais j'arriverai à la cheville de ça », mais la question, ce n'est pas ça. On s'en fout de ressembler à des grands speakers, à des grands acteurs. Être soi, et surtout dans le monde de l'entreprise, parce que Happy Work parle quand même du monde de l'entreprise, on ne demande pas à quelqu'un qui va parler d'un sujet quelconque, enfin banal, d'être Steve Jobs. Soyez vous, et à partir du moment où on est soi-même, on devient de plus en plus à l'aise, ça devient un jeu, et peut-être qu'on peut rajouter petit à petit des trucs qui nous font encore plus marrer. En tout cas, mille merci alors aux modérateurs, à Hervé Charles, aux intervenants qui sont montés sur le stage, d'avoir partagé vos questions, vos tips et compagnie. J'ai adoré ce moment. Donc je rappelle que si jamais vous voulez avoir le replay, il sera en ligne dimanche matin, dès 5h45 du matin, donc pour les lève tôt, sur toutes les plateformes. Et rendez-vous à la semaine prochaine, le thème n'a pas encore été défini, donc ça sera annoncé, je pense, lundi. Encore mille merci à vous. Je vous souhaite, parce qu'il est l'heure, un excellent week-end. Salut Benoît, merci. Salut Léna, merci. Emmanuel, mille merci. Hervé Charles, merci. Bob, merci. Lady, puisque tu es encore sur le stage, un énorme et gigantesque merci pour ton partage d'expérience. C'était passionnant. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, pas le même sujet, mais on va essayer de trouver, si ça vous plaît, un thème plutôt que de faire une room généraliste. Le thème à définir et sera annoncé lundi. J'allais dire je vous aime, mais en fait, oui, c'est ça. Ouais, je vous aime et merci d'être là. C'est trop cool. Bon week-end à vous toutes et à tous. Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.